Donc alors on est au Brass,
On est au Brass.
à Bruxelles, avec Stéphane Noël et Journal Euro pour Radio Grand Papier, et on est en compagnie de Thierry Van Hasselt et Marcel Schmitt.
Oui.
Et on va parler de votre
Oui.
exposition Frandisco et du travail, de tout le travail éditorial qui est autour. On va un petit peu ouvrir sur les projets, la collaboration plus large du Frémok et de l'AS, et puis peut-être un peu parler de la programmation générale
D'accord, le framework, c'est ça.
de What Is It qui est encore en cours, en fait, qui va se
Pardon.
terminer à la fin du mois d'avril. Mais donc voilà, Thierry, on t'a déjà accueilli chez Radio Grand Papier, mais on n'a jamais eu l'occasion de parler précisément de votre collaboration avec la S. Alors ici, on a donc Thierry, toi tu es fondateur des éditions Frémok, enfin un des fondateurs, on va dire. Marcel, toi tu es
Oui.
un artiste des grands ateliers de la S.
Oui, temporain aussi.
Voilà.
Un artiste.
Un artiste temporain, il est. Attention.
Et qui est un atelier de création spécifique qui est relié à un foyer
Oui,
à
ça rejette
Ville-Salm.
aussi. Ça rejette aussi.
Ouais. Qui.
Je suis place de Stavelot aussi, chez mon frère.
D'accord. Ce foyer qui accueille des gens déficients mentalement a créé en 91 des ateliers de création, donc cet atelier, l'AS, qui s'est donc créé à l'initiative d'Anne-Françoise Rouche, si je ne dis pas de
Ouais,
bêtises.
c'est bien ça.
Et vous, avec le Frémok, vous avez commencé à vous fréquenter il y a une dizaine d'années, finalement,
Petite dizaine
une
d'années,
petite
ouais.
dizaine d'années. Et donc le travail que tu fais aujourd'hui avec Marcel dure déjà aussi depuis un petit moment. Du coup, j'aimerais bien que vous reveniez un petit peu sur, dans un premier temps, comment le Frémok et l'AS se sont rencontrés, et puis après, peut-être parler plus
Donc, je me traîne un petit
précisément.
peu en transe avec ça. Et vraiment que je parlerai du peu avec elle, qu'en transe, dire la même chose comme Thierry qui a dit, je dirais ça en transe, on verra.
Ouais, je vais leur expliquer, d'accord?
On verra.
Donc, en fait, c'est Anne-Françoise Rouche qui est la directrice de l'AS Grand Atelier, qui est un centre de création pour artistes mentalement déficients. C'est un centre de jour, hein, c'est pas un foyer, il y a aussi un foyer, mais ça n'a rien à voir. Et donc, c'est un centre de création qui est repris dans une plus grande structure qui s'appelle les Hautes Ardennes et qui, elle, a aussi un atelier protégé et un centre de jour d'accueil pour personnes mentalement déficientes. Mais dans ce centre, Anne-Françoise a créé vraiment un micro-centre, on va dire, et qui est un CEC à vocation artistique. Et donc, il y a des ateliers de plusieurs. Discipline artistique, donc il y a de la musique, il y a de la gravure, il y a de la peinture, il y a du textile, donc ça peut partir vraiment dans tous les sens. Et donc viennent là quotidiennement une trentaine de personnes qui viennent aux Hautes-Ardennes, quoi. Alors l'idée, c'est quand même que ces personnes-là soient vraiment considérées comme des artistes à part entière et se revendiquent eux-mêmes comme artistes à part entière, c'est-à-dire qu'ils viennent régulièrement voir tous les jours et ils continuent ou ils développent une œuvre. Alors évidemment, il y en a aussi qui viennent et qui ne savent pas trop pourquoi et qui font un travail un peu en dilettante, mais ce n'est pas la majorité. Et puis il y en a qui viennent d'abord un peu comme ça parce que pourquoi pas, et qui viennent un peu en dilettante pendant un petit moment, puis tout d'un coup, chez qui il y a un déclic qui se produit, et c'est un peu le cas de notre invité vedette ici, Marcel Schmitt.
J'ai vu la vedette de Margot, je connais bien.
Ouais.
La vedette comme moi.
Ouais, c'est toi la vedette. Et donc,
Margot.
Anne-Françoise, à un moment, il y a une dizaine d'années, a voulu initier un projet autour de la bande dessinée, ce qui n'avait jamais été fait dans ce centre-là, et je pense que c'était rarement fait avec des artistes mentalement déficients. Et donc, elle est venue nous trouver, parce qu'elle trouvait certaine proximité entre certains de nos travaux et certains des travaux qui étaient faits à la S. Et puis quelque part, nous aussi, on est toujours, positionné un peu en marge de la bande dessinée ou aux limites de la bande dessinée, aussi dans la recherche, plastique un peu décalée, quoi. Et donc, elle est venue nous proposer ça. Au départ, nous, on était un peu perplexes, dubitatifs même. D'une part, parce qu'on ne connaissait pas très bien ce type de démarche. On connaissait un peu l'art brut, mais le travail en atelier, on ne se doutait pas non plus qu'il pouvait y avoir une telle richesse dans ce domaine-là. Il y a le temps qui passe. Et d'autre part, on avait un peu peur de tomber dans un projet un peu, socioculturel et caritatif, quoi. Mm-hmm. Mais Anne-Françoise était super insistante et on l'a trouvée tout de suite vraiment, vraiment chouette. Donc on y a été avec Olivier Depré, Dominique Goblet et puis plus tard Vincent Fortan. Et tout de suite, il s'est passé un truc d'énergie ouais, c'était super excitant, quoi. On était un peu impressionnés, et puis, mais je sais pas, il y a un truc assez fou qui s'est passé. Et donc, ça s'est prolongé sur une résidence d'une quinzaine de jours, qui était pour nous inoubliable et qui a, je pense, un peu transformé notre idée par rapport à toutes ces questions d'art brut, de création dans les ateliers, etc. Et du coup, est sorti le livre Match de Catch à Vielsalm là-dessus. Moi, j'avais travaillé avec Richard Baouin, qui était un artiste aussi trisomique, qui était un super graveur et aussi un bon chanteur de rock'n'roll. Et après le livre Match de Catch, on a un peu continué à travailler ensemble, plutôt sur des sculptures ou d'autres types d'objets, quoi, toujours en rapport avec Jean-Claude Van Damme, parce qu'on avait fait un récit sur Jean-Claude Van Damme dans Match de Catch. Puis Richard est tombé malade et il est décédé. Mais moi, je voulais quand même retourner à la S, parce que ça devenait difficilement envisageable de se passer de cette énergie-là. Et puis, avec Anne-Françoise, on a commencé à envisager de fonder ensemble une plateforme d'édition vraiment liée à ces problématiques de mixité et d'art brut contemporain. Et donc, on a lancé Knock Outsider. Et moi, je revenais à la S régulièrement, mais plus qu'en tant qu'artiste alors, mais en tant qu'éditeur, et pour réfléchir sur les livres des autres artistes qui étaient en résidence, et puis sur les projets de la plateforme, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'un beau jour, j'ai vu Marcel Schmitz commencer à construire des bâtiments. Voilà, je vais peut-être vite te faire un petit flashback, retour en arrière sur la pratique de Marcel Schmitt. Donc Marcel Schmitt, au début, c'était un de ces artistes qui venait un peu en touriste aux ateliers de la S. Oui. Sauf qu'il a toujours été fasciné par l'architecture et les bâtiments. Il a toujours voulu dessiner ça. Oui. Sauf qu'au début, c'était vraiment un peu... c'était très, très rudimentaire. Donc un bâtiment, c'était un rectangle, et les fenêtres, c'était d'autres rectangles dans des rectangles. Donc tout était toujours très, très frontal et très enfantin, quoi. Jusqu'au moment... Mais par contre, il aimait bien venir, il a commencé à faire de la gravure, il a commencé à multiplier un peu les outils, et à un moment, il a compris qu'on pouvait représenter les trois dimensions dans l'espace du papier, quoi. Et il a demandé à Fabien, l'animateur, de lui expliquer la perspective. Il a eu son petit cours de perspective, on lui a expliqué comment il pouvait arriver à représenter la trois dimensions dans le papier.
En dessin, ça.
En dessin, ouais, ouais.
Oui.
Et à partir de ce moment-là, son dessin a vraiment basculé, quoi. Il a commencé à faire vraiment des trucs magnifiques. Oui. Et je pense qu'il a aussi pris beaucoup plus de plaisir à dessiner en comprenant cette idée cette spatialisation. Mais ce n'était pas suffisant, et donc il a voulu commencer à construire, et il a avec du scotch et du carton, il s'est mis à construire ses premiers bâtiments. Et c'est ça que moi, je suis arrivé plus ou moins à ce moment-là, il devait avoir 5-6 bâtiments de fait, et chaque bâtiment était vraiment rigolo, farfelu, une histoire incroyable. Donc, par exemple, il y a il y a le tunnel église, c'est vraiment le classique, le tout premier. Donc le tunnel église, c'est un tunnel qu'on prend vite fait quand on va en vacances, et qui, du coup, comme c'est une église quand même, on reçoit un petit sacrement, et on ne doit pas traîner une heure à la messe.
Sacrement de Saint-Nicolas,
quoi. Ouais.
C'est le driving de l'église.
Voilà, voilà. Il y a une usine de chicons aussi. Alors, on ne sait pas très bien comment ça marche à l'intérieur. On sait qu'il y a des chicons qui sortent et qu'à l'intérieur, les ouvriers travaillent tout nus. Ce qu'ils font, on ne sait pas. Il y a aussi une piscine-église. C'est une église où on va à la messe et puis on s'élève spirituellement et on se retrouve sur la mezzanine. Et de là, on peut reprendre l'escalier ou le toboggan pour aller à la piscine.
Ouais.
Au bénite.
Une piscine d'eau bénite.
Ouais.
Wow, ouais. Ça fait beaucoup d'eau bénite, ça.
Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est quand il construisait ça, il racontait ses histoires, je trouvais ça vraiment génial. Donc j'ai eu envie aussi, quand je voyais ces bâtiments, de les dessiner en fait. C'était un moment aussi où j'ai commencé à dessiner au trait, au rotring, qui était une pratique tout à fait différente de ce que je faisais avant. Et j'ai eu envie de le faire comme ça. J'ai proposé à Marcel et à Anne-Françoise, et donc du coup ils ont été OK. Et donc on a commencé à travailler ensemble dans la même pièce, quoi. Lui construisait sa ville et moi je faisais les dessins. Je voulais aussi que la bande dessinée soit le lieu où il pouvait vraiment vivre dans sa ville. Donc je l'ai utilisé comme acteur, je l'ai fait poser pour moi. Et donc je l'ai fait habiter sa ville dans la bande dessinée. Je m'étais donné comme contrainte au début que tout soit fait d'observation. Donc d'essayer de vraiment dessiner cette ville comme si c'était une vraie ville et avec le rotring. Du coup, cette question de l'échelle ou du scotch et de tous ces trucs-là pouvait s'effacer, quoi. Et aussi, justement, d'utiliser un dessin assez minimaliste pour ne pas rendre... Essayer de gommer le fait que ce soit une maquette. Et à un moment, évidemment, il y a eu... un petit problème, c'est que Marcel... Donc on discutait ensemble des histoires de la ville, de ce qu'elle devait arriver, de qu'est-ce qui s'y passait, qu'est-ce que lui faisait dans sa ville et tout. Et à un moment, évidemment, il a fallu que Saint-Nicolas arrive. Et Saint-Nicolas, moi, je ne pouvais pas le dessiner d'observation. C'était pas la saison et tout, il n'était pas du tout dans le coin. Et donc, du coup, j'ai demandé à Marcel de me dessiner Saint-Nicolas. Et je suis reparti. Soit j'ai vraiment utilisé, collé les dessins de Marcel dans mes planches, sauf que je les ai fait dessiner directement dans les cases vides, quoi. Ou alors j'ai redessiné Saint-Nicolas d'après le modèle, comme s'il me donnait une fiche de personnage.
Et le perfotard,
ça c'est pour le deuxième tome.
Après. Oui,
là,
c'est
il y a
ça,
toute une belle
dire.
Série de perfotards, là. Ouais. C'est des recherches, après. Et donc moi je vais redessiner le perfotard après.
Parce que c'est ce que j'allais dire dans le livre, il y a un moment où le dessin, enfin Marcel, j'ai envie de dire, reprend un peu le pouvoir sur le dessin.
Ouais.
Puisqu'il y a des planches entières quasiment qui sont redessinées de la main de Marcel. Donc c'était un peu la question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment il revient
Il ne revient pas, il est venu assez tôt. Ouais. C'est Saint-Nicolas qui l'a fait rentrer dans le récit. Mais au départ, pour moi, j'avais travaillé avec Richard Baouin sur l'histoire de Jean-Claude Van Damme, c'était vraiment très très fusionnel, quoi. On a travaillé à deux, on travaillait sur les mêmes cases, on découpait et on recollait les participations de chacun, on ne savait plus vraiment voir qui avait fait quoi. Ici, moi, je pensais que le cas avec Marcel est très très différent, parce que lui, il est complètement autonome, il construit sa ville tout seul, il n'a besoin de personne, c'est son œuvre, c'est sa grande œuvre, c'est l'œuvre de sa vie, et il y travaille, il a besoin qu'on l'aide, il a besoin qu'on le nourrisse, il a besoin qu'on lui explique des trucs, mais c'est quand même sa ville, et c'est comme lui qui l'a fait tout seul, je ne venais pas à intervenir sur cette ville. Et donc, dans la même idée, je voulais que la bande dessinée, ce soit mon travail, en fait. Ma vision, ce soit c'est mon livre, c'est pas notre livre, on ne fait pas un truc ensemble, en fait. On fait un truc ensemble dans la même pièce, mais on fait chacun son truc. Mais ça n'a pas été si simple que ça.
Enfin,
ça s'est très, très vite contaminé, beaucoup plus intensément. Et donc, du coup, effectivement, ces dessins sont venus progressivement jusqu'à un moment où il y en a eu plein. C'est parce qu'il y a eu cette idée qui est une parade qui traverse Francisco. Et du coup, on a été voir plein de photos de Carnaval de Rio, etc. Et donc, il a commencé. Je ne sais plus pourquoi, à ce moment-là, je l'ai fait plutôt dessiner que... Enfin, je proposais de dessiner plutôt que...
Il n'y a pas de cheval.
Ça, c'est bientôt. Attends, on en parlera après de ça.
Et moi, je me demandais, donc, l'apport de Marcel dans ton travail, il est évident, parce que c'est ça qui fait que ça a déclenché un nouveau projet pour toi. Mais est-ce que la présence de Thierry, Marcel, ça, ça change quelque chose dans, dans l'élaboration de ta ville ou...
Oui, c'est ça. Ça vivra. Parce que entre nous, on prend des signes, j'aime bien. Maintenant, Fredisco soit bien d'Alfred. C'est Yvan à Martin. C'est fonctionne pour apprendre. Pour entrer en sens.
Le fait peut-être que, bah, que ce soit un projet qui sorte de l'atelier, qui est exposé, qui voyage, pour toi Marcel, ça, du coup, ça te, parce que tu réagis à chaque fois aux endroits que vous visitez ensemble et aux nouvelles situations que vous vivez ensemble.
Ça va.
Bah, ce que je crois, moi, c'est que le projet maintenant, c'est plus que moi je fais une BD et que lui je fais une ville, c'est qu'on a construit tous les deux une sorte de, d'embarcation, de véhicule qui nous permet... de voyager et de vivre des nouvelles aventures. Évidemment, pour Marcel, c'est quand même aussi une super émancipation par rapport au foyer, par rapport à la vie, à la vie quotidienne. Et du coup, c'est devenu, c'est lui l'artiste ici.
Ouais.
Parce que t'as fait une belle tirade là-dessus l'autre jour avant la conférence.
Ouais.
Parce qu'on a fait une conférence lecture.
Qui a été filmée.
Ouais, qui était filmé. Mais le micro marchait pas au début. Et donc, on a commencé. Et donc, évidemment, quand il y a le micro, il est très à l'aise. Et donc, on devait commencer. Tu vois, on était un peu calé avec la musique. Moi, je devais faire ci et ça et tout. Et puis, on était tous prêts. Et tout d'un coup, Marcel a commencé à faire un discours.
Un discours.
Ouais, en disant, c'est moi l'artiste ici.
Ouais,
bravo.
Un artiste.
Ouais.
Ouais.
Voilà, quand tu fais un nouveau bâtiment, tu le commences comment? Parce que tu as vu quelque chose là où tu es en train de travailler ou parce que...
Je vais le faire parce que je le vendrai. C'est avec des fils que je pousse le vendrai. Je vends la corde de couleur ou quoi. C'est la vendrai.
C'est
la
quoi,
vendrai.
La penderie.
Oui.
La penderie. Qu'est-ce que ça a à voir la penderie?
C'est un pour coûte ou quoi. Pour coudre, pour faire un bateau.
Ah, la broderie.
La broderie.
Ouais. Tu veux faire de la broderie?
Déjà ça, bien, c'est fini.
Bah non, c'est pas fini, tu veux encore en faire quand même. Ce serait bien de refaire de la broderie. Peut-être qu'il pourrait avoir un peu de broderie sur la RTBF.
Si.
Ouais.
Maintenant, un rangeur.
Ouais, ça, il faut être chez Anaïde pour faire la broderie. Parce qu'ici, on n'a pas le matos. Hein.
Non, pas ici.
Par rapport au livre, j'ai une autre question, c'est parce que là, vous continuez à dessiner, apparemment, il y a des nouveaux épisodes à venir, mais du coup, par rapport au premier livre, Frandisco, quand est-ce que tu décides que c'est fini et que ça peut faire un livre? Est-ce que c'est un chapitre? Est-ce qu'il y a une suite
C'est un moment, le livre, c'était un premier temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait discuté avec... Moi, j'avais montré le projet à Serge Darpex du festival BDX Aix-en-Provence et il avait vraiment flashé dessus, il voulait le faire une année et ça n'était pas été possible, enfin c'était un peu juste, donc il a dit on réfléchit pour l'année prochaine mais j'ai sans doute un bon plan qui pourrait vous convenir, il faudrait qu'on aille voir la fondation Vasarely et voir si c'est possible que ça vous dit. Donc du coup, on a été en repérage à la Fondation Vasarely, on a tout de suite eu le coup de foudre, parce que c'est vraiment des bons endroits.
Et à Bruxelles aussi.
Et à Bruxelles. Oui, à Bruxelles aussi, mais c'est pas... Ça, c'est maintenant, mais avant, on était à la Fondation Vasarely.
Et on a été frère.
Ouais. Et donc, j'ai dit à Serge, si on le fait, la Fondation Vasarely, ça me semble... On fait un livre, quoi. Je termine le projet, et on édite un livre pour le festival. Donc c'est vraiment ça, sans savoir du tout sur comment j'allais le finir ou c'est très arbitraire en fait. C'est que à un moment ça faisait quand même déjà 3-4 ans qu'on travaillait dessus, il y avait un certain nombre de pages. Je pense que c'était bien que ça se finisse. Et j'ai eu l'intuition que c'était possible de le finir à la Fondation Vasarely. Et effectivement. Bon, j'avais un peu la pression quand même quand on y allait, parce qu'on a fait 15 jours de résidence, il fallait que je trouve la fin du livre. Mais c'est venu C'est venu assez facilement. Et effectivement, ce qui était génial à la Fondation Vasarely, c'est que tout d'un coup, on ne pouvait pas faire l'impasse sur la couleur. Quoi. Il n'y avait que de la couleur autour de nous. Elle était vraiment... C'était gigantesque. Et Marcel a commencé aussi, lui, à aller se promener dans la Fondation. Il avait sa petite table à roulettes. Il redessinait les tableaux de Vasarely et tout. Et donc, on était complètement hypnotisés par cette optical art délirant, quoi. Et un peu rigolo en même temps, c'est marrant.
Enfin, oui, il y a quelque chose d'un peu daté.
Ouais, c'est ça.
D'autre part, il y a, par rapport au fait d'avoir travaillé au Rotring, tout le bouquin est vraiment dessiné avec un trait fin, non modulé tout du long. Et d'un seul coup, Vasarely, c'est que de la masse.
Ouais,
du coup, ça produisait une rupture très très forte dans la manière de travailler.
Ouais.
Et c'est aussi à ce moment-là qu'il y a aussi un peu de couleur qui rentre dans le travail de Marcel. Parce
tout
que c'est marrant, mais vous êtes tous les deux... dans une gamme, parce que le scotch que tu utilises, Marcel, c'est aussi un crème.
Ouais.
Donc on est dans des tons très pâles.
Ouais.
Et puis d'un coup, et dans vos travaux respectifs, la couleur émerge.
Ouais,
donc c'est vraiment une expérience.
Parce qu'elle a vraiment permis à Marcel d'aborder la couleur, parce qu'il avait déjà fait des essais avant. Il y a des trucs qui sont super beaux qui existent avant ça, mais qui sont plutôt en broderie alors. Dans la ville, il y a pas mal de bâtiments où il y a de la broderie. Mais les essais qu'il avait fait en couleur avant ça, plutôt à la peinture et tout, n'étaient pas super concluants. Et puis tout d'un coup, avec Vasarely, le Posca et tout, tout s'est vraiment bien emboîté, quoi. Et pour finir l'histoire, c'était finalement assez beaucoup plus simple que je ne le pensais. Et c'est vraiment finalement le fait de finir l'histoire, de la finir à Vasarely, de trouver cette fin-là, qui a fait que je crois que ça devient un récit. Parce que jusqu'avant ça, c'était pas vraiment. C'était une promenade, il y avait une tension qui montait, mais on ne savait pas très très bien vers quoi ça allait. Et le fait de devoir le finir, finalement, je pense que ça, j'ai pu tout resserrer. J'étais rassuré du fait que j'avais quand même réussi à faire une histoire de ce livre et pas juste une longue balade qui aurait pu ne pas avoir de fin, quoi.
Parce que pour expliquer un peu aux gens qui nous écoutent, dans Frandisco, on a vraiment un récit qui est celui que te fait Marcel dans sa ville, qui est un truc imaginé, mais qui inclut des personnages réels, comme les gens de la Hesse et d'autres personnes.
Surtout Anne-Françoise Rouche.
Surtout Anne-Françoise, qu'on voit beaucoup. Et puis c'est vrai qu'à certains moments dans le récit, on sort de Frandisco pour être dans des lieux beaucoup plus réalistes qui sont parfois le foyer ou la Fondation Vasarely.
Ouais.
Et on identifie aussi très bien ces moments dans le récit. Et je trouve vraiment beau l'alternance entre l'immersion dans Frandisco avec cette parade, avec vraiment des scènes vraiment irréalistes. Et puis
beaucoup de frites.
Et beaucoup de frites et des scènes très j'aime beaucoup cette scène où Marcel, tu es dans ta chambre et tu ranges, par exemple, ou lorsque vous mangez en groupe, qui sont des scènes beaucoup plus palpables. Cette alternance, elle est vraiment belle, je trouve.
Mais c'est devenu aussi le fonctionnement narratif de l'histoire, ces jeux entre l'intérieur et l'extérieur et entre le réel et la ville fantastique ou la ville imaginée de Marcel, parce que c'est lié vraiment à la spécificité de cette maquette. D'être une maquette, c'est qu'elle n'est que extérieure, quoi. Il n'a pas construit, on ne peut pas rentrer dans les bâtiments, les bâtiments sont vides de carton. Et donc du coup, moi dans l'histoire, j'ai besoin qu'on rentre dans les bâtiments. Et donc du coup, quand on rentre dans les bâtiments, on rentre chaque fois dans le réel de ce que de ce bâtiment, d'où provient ce bâtiment. Par exemple, la première résidence qu'on a faite, c'était au théâtre Forum Merin, et donc on logeait dans le NH Hotel de l'aéroport, qui est un business hotel assez chic dans lequel Marcel avait une très belle grande chambre. Et donc il a construit, évidemment, et on mangeait des petits déjeuners internationaux avec de la saucisse et de l'omelette et tout ça, hein, c'était pas mal.
Oui.
Et du coup, Marcel a construit le NH Hotel, et il y a toute cette scène dans la bande dessinée où on voit le NH Hotel de Frandisco, on rentre par la fenêtre, on arrive, on voit Marcel est endormi dans son lit, et puis les enfants de cœur viennent le réveiller, et tout ça, mais ça c'est des dessins que j'ai fait dans la chambre de Marcel, quoi, où il a posé pour moi dans sa chambre dans le NH Hotel. Et donc après, on descend au petit déjeuner, tout ça. Voilà, on est vraiment dans le NH Hotel de Merin, quoi. Et donc on a chaque fois ce rapport-là Et effectivement, là où on l'a de la façon la plus forte, c'est à la Fondation Vasarely, où on a du coup aussi les deux fondations, parce qu'on a la Fondation Marcella construite en Frandisco, mais on passe de celle-là à la vraie fondation. Et puis, il y a effectivement tout ce moment, je pense, qui est aussi super important dans le livre, parce qu'il relativise tout le côté fantastique. C'est quand, à un moment, il est 15h45, le bus du foyer arrive et viennent les rechercher. Donc, c'est la parade, et c'est le moment où tout va péter à Francisco, parce qu'il y a un accident qui se prépare, mais tout s'arrête, ce bloc net, parce que le bus arrive et qui vient les ramener au foyer, quoi.
J'ai une question, je vais revenir un petit peu sur la collaboration dans le temps. Donc, comme tu disais, toi, tu as d'abord travaillé avec Richard Baoin. C'est des boulots qui sont vraiment très très différents. Et je me demandais, alors c'est pas une question qui s'adresse qu'à toi, mais qui est plus générale, mais si on regarde l'ensemble des collaborations, parce que maintenant dans le catalogue du Frémok, il y a toute une série d'ouvrages. On voit qu'il y a un désir de mixité et qu'il est pas toujours. Voilà, il y a des choses qui semblent, des collaborations qui semblent évidentes et d'autres qui ont plus l'air de cohabitation, où l'assemblage n'a pas l'air de produire véritablement ce fameux troisième langage que vous cherchez. Enfin, je trouve que voilà, il y a des fois où il y a des expériences qui sont moins frappantes, je trouve, où on continue de sentir très fort, où on. Les identités de chacun très séparées, ou alors on a l'impression qu'il y a peut-être un artiste qui domine et c'est l'autre qui rentre dans la pratique de l'autre, ce qui peut être une bonne chose, mais est-ce que ça produit toujours un troisième travail? Je ne sais pas, c'est une question, mais la question qui découle de ça, c'est est-ce que selon toi, il y a une forme d'apprentissage? Parce que clairement, en 2007, enfin même un petit peu avant, quand Dominique Goblet, toi... Olivier Depré, vous débarquez à la S, comme tu disais tout à l'heure, vous ne savez pas ce qui va arriver. Et je pense que c'est impossible aujourd'hui de reproduire peut-être le choc, ou en tout cas l'énorme découverte qui se passe à ce moment-là. On imagine bien qu'un artiste qui débarque aujourd'hui pour faire une résidence, il est déjà très au fait du type de rencontre que ça risque de produire. Voilà, dans le paysage, alors c'est peut-être pas. Tout le monde ne se rue peut-être pas sur la collection Knock Outsider, mais n'empêche que moi, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus les travaux émerger et on s'en réjouit. Mais donc, du coup, il y a la sensibilité par rapport à ça, elle a forcément bougé. Et je pense que les expériences bougent aussi, quoi. Donc, est-ce qu'il y a une forme d'apprentissage, ou est-ce que tu vois une forme de mouvement dans les années, maintenant qu'on a un peu de recul depuis Match de Catch?
Oui, enfin, ça l'a toujours tout de suite été, cette question d'apprentissage. Moi, je vois justement que finalement, toute cette question de la mixité, elle permet l'apprentissage sans être dans l'apprentissage, disons, sans être dans l'enseignement, ou sans être, on n'est pas là, nous,
non,
en tant qu'artiste,
oui.
Tu vois, pour apprendre pour leur apprendre des trucs, mais ça se fait dans les deux sens, et finalement ça se fait souvent là où on s'attend pas, où ça bascule complètement les a priori qu'on pourrait avoir, ou les on peut dire, les rôles qu'on pense qu'ils pourraient s'attribuer aux uns ou aux autres en fonction de qui sait quoi, ou de qui a l'habitude de telle pratique, se renversent souvent. C'est ce qui est assez curieux d'ailleurs, parce que pour donner un exemple, je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, mais j'ai l'impression que quelque part, c'est pas mal de projets qu'on fait avec The Outsiders sont pour les plus. Quasiment plus lisible, plus abordable par les gens que les travaux qu'on fait ailleurs. Si on travaille seul, j'ai l'impression que ce que je fais avec Marcel Schmitt est plus évident, plus direct et plus recevable par le public, quasiment, que ce que je peux faire, la plupart des choses qu'on peut faire tout seul. Et j'ai l'impression que nos livres, les livres qu'on fait avec Knock Outsider, les livres qu'on fait Match de Catch ou Frandisco, eh bien, finalement, ils sont moins difficiles à faire partager par un public que d'autres livres du framework qui ne sont pas plus plus simples ou plus compliquées. Pour moi, c'est la même démarche. Sauf que finalement, quelque part, se dire que quand les gens comprennent que c'est un travail qui est fait avec des artistes déficients mentalement et des artistes professionnels, ils disent « Ah ouais, c'est pour ça que c'est comme ça. » Ou une espèce de truc. Et donc, du coup, ils acceptent ce type de recherche et ils rentrent plus facilement dedans. Alors que elle est complètement du même type que ce qu'on fait ailleurs. Mais tout d'un coup, c'est comme si on avait besoin d'eux pour autoriser les gens à nous lire. C'est assez paradoxal.
C'est aussi parce que ça produit une forme d'introduction et qui désacralise peut-être un peu le truc. Ouais. Si un journaliste doit parler de votre travail, il peut d'abord tout situer, la démarche, et puis peut-être pas forcément devoir rentrer tout de suite dans le contenu du livre.
Et puis de toute façon aussi, c'est vrai que c'est évident, pour le travail de Marcel Schmitt, il est juste fascinant. Et c'est très très simple de rentrer dedans. Je vois bien quand on a fait l'expo ici ou à Aix-en-Provence, c'est vraiment tout public, quoi. Tous les gens qui viennent dans l'expo sont attirés, ont envie de regarder, ont envie de toucher les enfants, ils adorent ça. Donc finalement, oui, ça donne ça aussi, c'est vrai, ça donne une porte d'entrée qui est beaucoup plus simple. Et d'apprendre ça, c'est quand même pas mal aussi.
Ouais.
De voir.
On en parlait tout à l'heure. Et, je posais la question de savoir quels étaient finalement les apports pour toi que donnait cette collaboration. Ouais. Et tu disais qu'une des choses que ça permettait, c'est cette forme de sérénité à l'intérieur du dessin qui est liée pour moi à celle qu'on peut avoir dans la compulsion du dessin. C'est-à-dire qu'il y a là, dans le travail que fait Marcel, un plaisir de la fabrication qui est très premier. Et le fait d'arriver de travailler avec lui, c'est aussi, comme tu disais au départ, d'être dans le même endroit et de travailler de manière parallèle avant que quelque chose ne se mixe. C'est aussi trouver le plaisir de simplement s'asseoir et de dessiner. Et tu disais que c'était quelque chose qui avait été aussi un vrai plaisir pour toi.
Oui, de pouvoir redessiner d'observation, de juste avoir ce support et d'être là et de le retranscrire et d'essayer de le faire exister. Après, c'était pas si simple que ça quand même, quoi, parce que pour en faire un récit, j'ai quand même eu des moments de doute et de... ça a bloqué, c'est si simple, j'ai pas juste dessiné tout ce que je voyais, et puis tout d'un coup c'est arrivé, quoi. C'était quand même...
Parce que pour toi, ce désir de récit au final était quand même une pression forte qui était derrière.
Oui, à fond. Il fallait vraiment que ça devienne un récit, parce que sinon...
C'est quand même ça qui fait le liant entre Marcel et toi. Sinon, dans ce cas-là, c'est...
Marcel
intervient dedans.
Comment ça parle de notre expérience et qu'est-ce que ça dit et pourquoi je le fais? Tout ça, ça doit finalement se comprendre. Le récit doit raconter cette chose-là. Pour autant, j'avais pas vraiment, en commençant le récit, j'avais pas l'idée de ce que ça allait raconter, quelle était la nature de ce récit. Donc je l'ai vraiment construit comme une sorte de documentaire, quoi. J'ai considéré mes planches comme étant des rushs, et à remonter ensuite, ce qui est toute la première moitié, n'a pas du tout été faite de façon chronologique. C'est qu'à un moment, j'ai compris ce que j'étais en train de faire, et là j'ai pu avancer. La fin, elle a été faite d'une traite, quoi, sans montage. Elle a été montée en découpage en se faisant. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que je crois que ce qui m'a vraiment transformé, ou ce que m'a amené cette expérience-là, c'est une grande décomplexation. Par rapport au dessin, quoi. Tout d'un coup, s'autoriser une liberté de dessin que je ne serais pas, que je m'autorisais pas seul, et que Marcel m'a permis, auquel Marcel m'a permis d'accéder. Et puis, et la légèreté, quoi. De faire un travail qui semble, en tout cas, léger, volubile, marrant. Je pensais jamais que je pourrais faire un truc que je trouverais de quoi raconter quelque chose de positif et presque d'optimiste, quoi. Finalement, c'est quasiment optimiste, cette histoire. C'est joyeux, c'est marrant, et tout. Ça m'est tombé dessus complètement de façon inattendue.
Moi, ça me fait penser à un livre qui est depuis longtemps dans votre catalogue et qui est un livre que j'aime beaucoup. Ça me fait penser à Hortus Sanitatis de Frédéric Cochet. Et dans sa forme et dans certaines de ses thématiques.
Ouais, c'est possible. Ouais. Bon, évidemment, c'est un livre que je connais bien. Et c'est sûr que c'est dans des choses qui m'ont sans doute influencé par rapport au trait ou la logique narrative.
Aussi la manière dont c'est agencé, de case par page. Lui, c'est de la gravure,
mais
il y a quelque chose dans
ça,
le
j'ai
dessin,
toujours fait un de case par page.
C'est une signature.
ça vient pas de c'est là. Vrai. Mais non, je trouve c'est plutôt le rapport au dessin et la façon dont il articule ses séquences. Évidemment, ouais, je trouve ça super.
Et peut-être on pourrait demander à Marcel. Marcel, qu'est-ce que tu aimes bien dans le fait de travailler avec Thierry? Qu'est-ce que ça a de chouette?
Je suis en train de signer ou quoi, ça.
Il y a la Fondation Vasarely, qu'est-ce que vous avez fait tous les deux?
On était à la série probable, le paysage aussi.
Et alors j'ai une question plus, c'est un peu la même question mais étendue au Frémok. Qu'est-ce que ça signifie pour le Frémok de bosser avec l'AS depuis 10 ans? Comment vous situez ça à l'intérieur du catalogue? Parce que ça vous occupe, ça occupe une grande partie en fait du Frémok. Mm-hmm. Est-ce que c'est une branche à part? Est-ce que c'est par rapport au reste du catalogue? Je me demande un petit peu.
Pas très bien.
Tu sais pas.
Ça,
il y a quand même eu un désir de prolonger après match de catch à Vilsam. Vous auriez pu vous arrêter en disant c'était génial.
Non.
Et en fait, il y a un vrai désir de continuer à multiplier les collaborations, à en faire des livres, sous plein de formes différentes.
Il y a aussi le fait que la réception a été quand même vraiment enthousiaste. Mm-hmm. Il y a tout un réseau qui s'est créé. On était invité à participer à pas mal d'événements. On était soutenu par des opérateurs ADA Brut assez. Et donc, du coup, on a été sollicité pour plein de choses. On y a répondu. Ça a relancé chaque fois la machine. C'est un peu comme. On nous a proposé de faire l'expo à Angoulême sur les pratique de la BD à l'AS, donc Pierre-Huyne a fait le commissariat. On peut plus s'arrêter chaque fois, on a des propositions comme ça, et donc du coup ça amène des livres. Et Anne-Françoise, elle est quand même super énergique, elle en veut aussi. Donc on a une équipe là-dessus ça avance à fond, le Frémok ça avance à fond sur d'autres choses, mais c'est la même machine en fait, sauf qu'elle est un peu plus complexe du côté de Outsider parce que il y a l'AS et que du coup ça implique un fonctionnement un peu différent que le Frémok, mais pour nous c'est quand même la même machine et on avance autant sur l'un que sur l'autre, et moi je fais presque pas la différence, ce sont des livres, quoi, des livres qu'on a envie de faire,
ma question en fait elle est, mais t'as répondu en disant que c'est vrai que comme la S c'est partie prenante, c'est une collection à part, mais justement j'ai envie de dire pourquoi ce serait l'objet d'une collection, ce serait continuer à dire c'est quelque chose à part, alors que ça pourrait être dans le catalogue pour une barre, mais bon c'est le fait que ce soit plutôt un aspect administratif presque.
Qu'il y ait deux structures qui soient impliquées là-dedans et que le Frémok a son fonctionnement et ses méthodes de prise de décision quant à une direction éditoriale. L'AS, et du coup, l'AS intervient là-dedans, qui n'est pas du tout organisé de la même façon. Faut rappeler que le Frémok, c'est une structure associative et que c'est organisé horizontalement. Donc les décisions sont prises collégialement avec des votes, etc. Mm-hmm. Alors que l'AS, c'est aussi une association, mais c'est hiérarchisé. Donc il faut arriver à goupiller tout ça. Et puis donc Frémok et l'AS n'ont pas forcément les mêmes attentes d'une collection, etc. Mm-hmm. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que c'est sinon, mais c'est de la même manière. Moi, je pense que on fait ces livres-là comme les autres.
Oui.
Juste, il faut les différencier parce que les intervenants, c'est piloté par deux structures.
Mm-hmm. Et donc, vous êtes, c'est parti pour durer. Là, on peut s'attendre à avoir
des super projets. Ouais. Et du coup, aussi, qui vont de plus en plus déborder de la bande dessinée. Donc là, il y a un projet de Nicolas Clément, qui est photographe, avec Barbara Massard, qui est une artiste de l'AS, qui fait du textile. Mm-hmm. Ils ont fait ensemble un premier film. Mm-hmm. Et donc, de ce film, ils ont tiré une série de photogrammes qui va donner lieu à un livre. Mais eux, ils ont un peu le même genre de processus de travail que Marcel et moi, c'est-à-dire qu'ils travaillent en résidence, elle crée des costumes et des environnements textiles, et puis ils les placent in situ, ils les font vivre par la photo et par la vidéo. Donc ça, c'est un projet qui va, à mon avis, aussi exploser. Quoi. Mm-hmm. Et puis il y a le livre de Dominique Gueblet, Dominique Théâtre, qui est en train de se terminer, qui va être juste énorme.
Qui, eux, en fait, se sont rencontrés en 2005.
Ouais, ça fait 10 ans
qu'ils travaillent ensemble.
Qu'ils sont occupés sur ce livre. Et puis il y a des nouvelles résidences qui ont commencé à l'AS. Là, il y a Margot Duseigneur qui mm-hmm. était avec Antoine Marchalot. Et un autre, Quentin, le groupe de Couteau. Quoi. Je pense qu'il y a des projets avec Lagoon aussi.
Mm-hmm. Oui.
Ça va. Il y a plein de nouvelles choses qui vont.
Et Frandisco, il y aura une suite aussi, alors j'imagine.
Ben on est reparti. Hein.
Ouais. Ouais. Donc là, ça durera tant que Marcel aura envie de construire une ville, enfin d'agrandir la ville.
Ouais. Tu vas arrêter de construire Francisco ?
D'accord.
Non.
Ah
ouais. D'accord.
C'est,
non.
C'était une question.
faut pas arrêter de construire Francisco quand même.
Quand ?
Bah, je sais pas quand. Non. T'as encore quelques bâtiments à construire.
Mais j'ai encore un.
Ce qu'on va faire aussi nous en facteur cheval.
Mais on ira, mais quand, quand?
En octobre.
Ah ouais.
Oui, donc ça, c'est un prochain projet, c'est aller dans un des hauts lieux de ce qu'on appelle l'art brut, puisque ici, on est plutôt, bon, le terme a tout un historique, art brut, art en marge, art outsider, tout le folk art, il y a toutes sortes de dénominations qui n'arrivent pas à recouvrir ce champ un peu hétérodoxe. Et donc là, la prochaine halte, c'est le palais du facteur cheval, où vous allez travailler dans la maison du facteur cheval, apparemment.
Oui. C'est-à-dire qu'il y a le palais, et puis il y a une espèce de salle d'expo à côté, enfin, où il y a des concerts, expositions, tout ça. Donc là, on va installer la ville, et la résidence est dans la maison du facteur cheval. Donc nous, on habitera dans la maison du facteur cheval. Et donc, le facteur cheval, lui, il a construit son palais en grande partie de nuit, à la bougie, ce qui doit quand même être super beau Enfin, ça devait être très dur, mais ça me fait beaucoup fantasmer au niveau de l'image. Et donc, comme nous, on est sur le site, on pourra aller dans la nuit, dans le palais du facteur cheval, avec une petite bougie. Et je pense qu'on va aller faire des sessions de photos, là.
Oui.
Marcel va pouvoir visiter de nuit à la bougie.
La boîte de la nuit.
Ouais, la boîte de la nuit du facteur cheval.
Marcel, il a déjà ses petites idées.
Et du coup, il a déjà pensé à comment il allait reconstruire le palais dans Frandisco. Oui. Tu vas le faire comment ? Mais tu le savais avant.
Oui, t'as vu. Mais pas encore, hein, ça.
Non ?
Parce qu'un jour, quand on est pas cette année, on verra. On verra quoi. Mm-hmm. Pas encore.
Non, c'est en octobre.
C'est ouais. Ah oui, d'accord.
C'est pas maintenant, en octobre.
Pas encore.
Sinon, je reviendrai bien un petit peu sur le programme plus largement, parce qu'il reste encore quelques événements. Donc ouais. Ça, on a raté la conférence. C'est vraiment dommage parce que c'est passé, conférence de Thierry et de Marcel.
Avec Gabriel Sévrin, qui fait la musique. On était trois sur scène.
Il y en aura d'autres ?
Oui, sans doute, mais pas encore.
Ouais, ouais,
facteur cheval, sans
oui,
doute.
Oui, voilà. Faire, ouais. Mais... Sinon, il y a une exposition à la Alice Gallery à Bruxelles.
Juste... Brut, avec un point d'interrogation.
Oui, ici à Bruxelles.
Jusqu'au 28 avril.
Ouais.
Et c'est en partie. Est-ce qu'on revoit les mêmes artistes qu'Angoulême, par exemple ?
Non, pas du tout. C'est un commissariat qui a été fait par Antoine Capet, David Lemoine, donc de Brut Pop.
Oui.
Et donc ce sont il y a des artistes de l'AS, il y a aussi des artistes d'autres, d'autres
français
d'autres
d'accord.
centres, et il y a c'est plutôt un axe qui met en avant des jeunes artistes qui travaillent soit sur les choses liées plutôt à la pop culture, soit carrément au numérique.
D'accord.
Donc eux, ils sont très très intéressés par l'émergence d'artistes bruts numériques, donc des jeunes, souvent des jeunes qui sont sur leur ordi et qui font des trucs
d'accord.
Complètement singuliers, quoi. Dont notamment un jeune garçon autiste, je crois, qui doit avoir 14 ans et qui passe son temps qui est obsédé par les inondations et par l'eau, qui vit en maillot de bain chez lui, je crois, et qui inonde des villes et des lieux et des bâtiments sur Minecraft et d'autres.
Il y a aussi Monsieur Pimpan qui a collaboré dans des impressions 3D, je vois ici dans le catalogue.
Ouais. Ça, c'était des choses qui étaient montrées à Angoulême, par contre. C'est le travail de Dominique Théâtre. Ouais.
Et alors, dans les choses qui restent à voir, il y a une projection aussi au Point Culture de Bruxelles.
Oui, c'est ça. Il y a un film, justement, des gens de Britpop.
Un documentaire.
Sur la musique underground et le handicap. Et donc, il y a une partie sur les Schoolers, ce qui est le groupe de l'AS, mais sur plein d'autres expériences, plein d'autres groupes. Et ce film est vraiment, vraiment super.
Et c'est entrée libre.
C'est parfait. Je crois.
Je peux te confirmer. Ouais. Ok, alors, longue vie à Frandisco, Marcel.
Ouais.
Merci.
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 Ok.